l'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. Encore une édition de l'Afrique dans tous ses états. Je suis toujours en compagnie de mon comparse Jérémy Ziri. Bonjour Jérémy.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madeleine Johnson, voilà, qui a plus d'une corde à son arc, comme vous allez pouvoir le constater. Et je vais demander à Madeleine donc de se présenter, voilà, un peu dans ce qui lui importe dans sa présentation. Voilà. Je dirais simplement que tu es camerounaise d'origine, voilà, c'est pas une, voilà, et que ta culture initiale est très importante pour toi. Voilà Madeleine, je te donne la parole.
Bonjour Marie-Claude, bonjour Jérémy, bonjour chers auditeurs. Je suis Madeleine Johnson. Je suis camerounaise, comme il a déjà été souligné. Je suis chercheure, biologiste, plus précisément ethnobotaniste. Et si je peux aussi ajouter auto-entrepreneur et passionnée de la culture, très très impliquée dans le monde associatif. Et qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Pour le moment, je crois que je vais d'abord m'arrêter là.
D'accord. Alors moi, la seule chose, avant que Jérémy, je pense qu'il a plein de choses à dire aussi, je dirais que ethnobotaniste, c'est quand même quelque chose, enfin c'est un peu, je pense que c'est pas d'hier, hein, cette formation et cette thèse, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui était d'avant-garde. On commence à voir des ethnobotanistes maintenant, parce qu'on commence effectivement à relier un peu sur notre terre les humains avec la terre, avec les animaux, avec les végétaux. Mais je pense que, voilà, qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez rare.
Oui, bien évidemment, puisque tu en parles. Ma thèse, lorsque je la prépare à l'Université de Hambourg, c'était un travail pionnier, en fait. Mm-hmm. Dans le domaine de l'ethnobotanique, c'est le tout premier travail, le tout premier projet qui a été mis sur pied pour parler de l'ethnobotanique en ces termes-là. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, on réfléchissait comment est-ce qu'on allait l'appeler. Et voilà, en partenariat avec, à l'époque, l'université Yaoundé 1 au Cameroun, on a pu échanger avec les professeurs de là-bas. Et on a pu donc arriver à ce thème-là, à ce titre d'ethnobotaniste. Et on a dit, ben voilà. On se disait, c'est quelque chose qui existait. Est-ce qu'on a le droit de prononcer ce mot-là? Parce que les origines remontent déjà à beaucoup, surtout les peuples au Canada, les Indiens qui ont été presque, je dis bien presque, je pèse les mots, exterminés. Mais c'est eux qui pratiquaient beaucoup plus, on disait, la science des aborigènes. Donc, ça a évolué aujourd'hui, on peut dire sans crainte que, voilà, on est ethnobotaniste.
Voilà, donc on va se dire quand même que ce n'est pas par hasard que ce soit une Africaine, quand on sait justement les liens qu'il y a entre les traditions, les liens très étroits entre l'homme et la végétation, hein, notamment chez vous, où il y a quand même encore on espère pour longtemps et pour toujours, même une tradition où quand même les plantes ont toute leur place dans la guérison, dans le soin et la guérison. Donc voilà, nous avons quand même une pionnière aujourd'hui, hein Jérémy?
Oui, moi je suis plutôt intéressé par sa démarche, comment on devient ethnobotaniste en Allemagne, une Africaine, quand on sait le rôle que jouent ces êtres dans nos sociétés. Comment elle arrive à être ethnobotaniste? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une transmission de famille en famille qu'elle a fini par pousser un peu plus loin que les études? Et puis, ils sont en général les gardiens de certaines traditions, de certaines connaissances des plantes, etc. Mm-hmm. C'est ça qui m'intéresserait à entendre de la part de Madeleine.
Mm-hmm. Ah, je pense que même toute une année ne suffirait pas pour pouvoir expliquer la démarche qui a été la mienne, parce que pour les auditeurs de FM+, plus qui ont depuis plus de 3 ans déjà ma grande, comme j'aime bien t'appeler, et avec Guylaine, j'ai eu l'occasion d'expliquer aux chers auditeurs. De base, moi, je suis microbiologiste. Donc, ça part de là, un rêve qui n'a pas abouti et une situation familiale compliquée qui va m'amener de façon cartésienne à pouvoir m'engager dans l'ethnobotanique. Ce n'était pas un truc où on se lève le matin, on se dit, ben voilà, on veut devenir ethnobotaniste. Donc, comme je disais tantôt, il faut toute une vie pour pouvoir expliquer. Mais je vais me faire violence, ce que je n'aime pas, de façon très très brève. Dire ici que ça part d'une expérience familiale, une expérience très très douloureuse, parce que ça part de la maladie de mon frère aîné, et que la médecine classique, la médecine moderne pour certains, n'a pas pu trouver une solution. C'est-à-dire, tous les principes, une maladie, un médicament, ne respectaient plus les normes. Et voilà, on va être, comment dire, de façon plus simple et plus claire, lorsqu'on arrive dans un grand hôpital de référence et que le professeur vous dit les yeux dans les yeux, il n'y a plus rien à faire pour ce cas. Alors, aller attendre à la maison et voilà. Et en tant qu'Africain, est-ce que vous n'avez pas autre chose dans vos cordes? Et on se regarde, on se dit, ben, c'est pas possible. Une maladie, un traitement. Et comment un professeur peut dire à un malade, va à la maison, il n'y a plus rien à faire. Et à partir de ce moment, voilà, comme on dit, le verre en cristal, il est tombé, il s'est cassé. On est rentré dans la tradition, on a pu déceler le mal et on est revenu vers le même professeur lui dire, faites les examens. Après avoir consommé certaines plantes et certaines écorces, on a pu déceler le mal. Et à partir de ce moment, ma vie a basculé. Et la curiosité a fait en sorte que je m'intéresse à ces choses. Incroyable. Comment la médecine ne peut résoudre un problème comme celui-là. Et il a, je ne peux pas dire la faiblesse de l'avouer devant une personne lambda, je ne peux rien faire. Et il m'envoie vers la nature. Mmh. Et je vais dans la nature et je trouve la solution. Donc voilà. De façon brève, cher Jérémy, je crois que pour vraiment bien expliquer ma démarche, on a besoin de toute une émission pour pouvoir parler de ces choses-là, du comment. Je vais plutôt me focaliser sur l'ethnobotanique. Mais déjà, lorsque je faisais les études en biologie, j'avais la botanique appliquée comme matière secondaire à côté de la microbiologie et l'hydrobiologie. Donc, j'avais déjà les bases de la botanique appliquée qui n'est autre que voilà aussi la relation de l'homme avec les plantes plutôt alimentaires. Donc, l'ethnobotanie va venir ajouter ce côté de la relation avec les plantes rituelles, les plantes médicinales, les plantes que l'on utilise dans le train-train-train, dans le train de vie de tous les jours.
Alors, Jérémy, c'est une belle, oui, un bel exemple. C'est voilà, simplement, parce que je sais que Jérémy, il boue là. simple chose que j'ai envie de dire, simple commentaire, c'est que là, j'ai assisté en direct quand même à l'exemple de comment l'homme occidental a mis la médecine au-dessus de tout, y compris comme miraculeuse. Et on voit bien que les limites, on les a. Et je dirais quand même que même chapeau à ce professeur d'avoir su dire, et d'avoir su, parce que c'est pas tous qui sont, ils sont pas tous comme ça, d'avoir su dire les limites et d'avoir osé aussi vous renvoyer sur les traditions. Voilà, Jérémy. Oui.
Enfin, voilà, je rebondis un peu là-dessus, parce que de chez moi aussi, de ma génération, lorsqu'on est malade, le premier réflexe, c'est pas d'aller à l'hôpital. Le premier réflexe, c'est d'abord explorer les plantes, voir les guérisseurs, etc. Et c'est quand on n'y arrive plus que la médecine moderne vient en dernier recours. Souvent, malheureusement, il est trop tard. Mais toi, tu fais la démarche inverse. C'est ça qui m'est
ouais, ça, c'est intéressant parce que, voilà, on est dans une société moderne et lorsque un cas arrive, je ne sais pas si je dois dire fort heureusement ou alors malheureusement, le patient est en ville. Donc, le premier réflexe, c'est lorsqu'on est dans une zone peut-être reculée, pour ne pas dire au village, que le premier réflexe est de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? En ville, c'est d'abord, on va à l'hôpital, on va voir surtout les manifestations externes. Les manifestations externes ne prévoyaient pas qu'on aille rapidement consulter le tradithérapeute ou alors appeler maman et dire quelle est la plante qu'on doit utiliser. Et voilà, à partir de ce moment, la conception, le pourquoi du comment, ça fait plus de 2 décennies déjà que je sillonne ces forêts de mon peuple. Je sillonne les villages pour aller à la quête de ce savoir et surtout ce savoir-faire traditionnel qui est lié à l'homme et l'homme qui est voué à l'évidence qu'est la mort. Et que ces choses-là ne tombent dans les oubliettes ou alors ne disparaissent avec ceux-là qui possèdent ces connaissances-là. Donc, voilà, c'est tout un long chapitre. Il y a aussi la conception de la maladie. Parce que ce peuple-là, ça ne se passe pas comme ça avec toutes les maladies. Ce sont les maladies complexes, c'est-à-dire les Anglais vont appeler le folk illness, c'est-à-dire la maladie qui est liée aux cultures. C'est-à-dire il y a les maladies, par exemple, qu'on a diagnostiqué le cancer ou alors je ne sais même pas, c'est une blessure où on doit traiter. Ce ne sont pas toutes les maladies, d'après mon expérience sur le terrain, qu'on doit faire, cette démarche-là. Donc, ce peuple-là a déjà une conception extraordinaire sur ce que c'est que la maladie. Parce que la maladie, ce n'est pas la maladie, mais c'est le mal à dire. C'est-à-dire, c'est le mal à dire qui est la maladie. Donc, tout part déjà de ce concept-là.
Bon, autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que dans les sociétés traditionnelles, tu as dit que tu as sillonné, tu sillonnes les villages, etc.
Tu continues.
Mais il y a quand même un fait, c'est que les gardiens de ce savoir ancestral, je ne suis pas sûr qu'ils le transmettent aussi facilement, il faut au moins initier. Est-ce que Madeleine a été initiée? Parce que parcourir les villages, c'est
question,
bien bon.
Très bonne question.
Je dois dire ici, c'est une question pertinente parce que lorsqu'on parle de ces choses-là, il y a ce qu'on appelle le sacré et le secret. Fort heureusement, le sacré n'est pas un secret. Le sacré est propre à une communauté et comme tu venais de bien le dire, Jérémy, il y a ces détenteurs de ces savoirs traditionnels. Ils savent à qui le transmettre et à qui ne pas le transmettre. Il y a des connaissances qui vont de père au fils. Il y a des connaissances qui ne sont que qui n'appartiennent ou alors le monopole ne revient qu'à une certaine lignée, à une certaine fratrie. Et il y a aussi le fait que ces détenteurs peuvent déceler des personnes qui n'appartiennent pas à ce milieu, ce que nous venons de citer, mais ils ont la latitude, ils ont cette possibilité de pouvoir transmettre ces connaissances et ces savoir-faire à certaines personnes. Le cas échéant à ma petite personne, parce que, comme j'ai dit, ça fait plus de 2 décennies que je suis sur le terrain. Ça a été un très, très long chemin. Aujourd'hui, je suis la reine de mon peuple. J'ai été initiée par ces détenteurs de ces savoirs qui sont les chefs traditionnels et qui m'ont portée à ce niveau et que j'ai la lourde responsabilité de pouvoir parler de ces choses-là et surtout de pouvoir distiller ce que je dis ou ce que je ne dis pas. Donc voilà, le secret ou le sacré.
Jérémy, okay. Satisfait de la réponse ?
Oui, je rebondirai plus tard.
D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale. Voilà, et avec un morceau qu'a choisi Madeleine. Ouais. Madeleine, c'est quoi
Oui, c'est un jeune chanteur camerounais de mon ethnie libanaise au Cameroun. Mmh. Il s'appelle Steve Muleli. Muleli veut dire le maître.
Voilà, voilà, Steve Muleli.
Les voix du Seigneur sont des soldats. C'est le Dieu. Protégera de mes ennemis. Un bala baka kounyo yotani. Un bala baka. Atayeti bamba koi koi banu hongoi. Un bala baka kounyo yotani. Atayeti bamba koi koi banu fete. Un bala baka kounyo yotani. Atarani bako yami miye kana. Un bala baka kounyo yotani. Akareni bako yami miye kana. Un bala baka kounyo yotani.
Alors après ce petit voyage musical que nous écouterons sûrement encore, parce qu'il n'est pas fini, on se retrouve ici donc avec Jérémy et puis nous recevons toujours Madeleine Johnson qui nous a déjà pas mal initiés, je dirais. Ça donne envie d'aller avec elle dans les forêts, ramasser les plantes, etc. Et puis expliquer et puis avoir des secrets, lui soutenir ses secrets.
Voilà, je rebondis un peu sur un aspect de ce qu'a dit Madeleine, c'est qu'elle dit avoir été initiée. Alors, est-ce que c'est avant d'être reine ou après qu'elle ait été intronisée reine ? Première question. Et deuxième question, dans certaines pathologies, il y a des maladies qui concernent l'homme. Est-ce que je sais, selon les maladies de l'homme, il n'y a que l'homme qui peut avoir accès à certaines parties de l'homme pour soigner ? Qu'en est-il de ton côté ?
La première question de ce volet de question était sur l'initiation. J'ai bien dit, j'ai été portée il y a environ 3 ans, j'ai été élevée à ce titre. Et cette élévation, cette initiation, c'est une initiation particulière. Et elle s'est passée bien après. Elle n'est pas une initiation au terme, c'est-à-dire si on veut voir comment les chefs, eux, personnellement, sont initiés. Eux-mêmes, si je les prends à leur mot, ils disent, parce qu'on dit un chef, un territoire. Mais la reine, elle a tous ses territoires. La reine n'a pas un territoire. La reine a les territoires. La reine est ambassadrice. Ici où je suis, je n'ai pas un territoire, mais je suis ambassadrice lorsque je suis hors du pays Bénin. Mais lorsque je suis là-bas, je suis partout chez moi. C'est-à-dire un chef, nous avons, pour expliquer un peu, nous avons des chefs supérieurs. Nous en avons 7 dans tout le pays Bénin. Et chaque chef est chef supérieur dans une circonscription. Mais moi, je suis dans ces 7 circonscriptions. C'est-à-dire, lorsque les 7 sont assis, j'ai le droit d'y être. Et il peut même exclure un des 7, mais moi, je peux y assister. Et je ne prétends pas avoir les connaissances de ces chefs-là. Et l'autre réponse que je peux donner par rapport à cela, c'est que ces détenteurs ont vu parce que chez nous, on dit, on t'a vu dans le sein de ta maman. Ils m'ont vu. Ils ont vu ce que je fais. C'est-à-dire, avec leurs mots, ils vont dire, ils ont vu mon étoile. C'est-à-dire, me porter à ce titre-là, ce n'est que l'aboutissement d'un long processus qui s'est passé à leur niveau. Et ce n'est pas transmissible, c'est-à-dire ça s'arrête avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai des enfants qu'ils seront des princes ou alors des reines, non, ça s'arrête avec moi. C'est-à-dire, il va falloir que d'un moment à un autre, ou alors qu'ils suivent aussi une autre étoile, les critères, je ne connais pas. Ils vont dire, ben voilà, il y a une autre personne que nous suivons depuis... peut-être ce sont les ancêtres qui ont commencé et à leur niveau, c'est l'aboutissement de ce processus-là. Je ne sais pas si je réponds à cette question, puisque ça se passe il y a 3 ans, c'est en 2021 que je vais être portée à... Je vais être élevée au titre de reine.
Parce qu'en fait, ma question, c'était de...
Ça ne se passe pas avant, non. Mais ça se passe après, puisque ça fait plus de 2 décennies.
Elle a eu lieu après que tu t'étais élevé, c'est bien ça?
Non, c'est lorsque on t'élève, là, à ce moment-là, tu as déjà le titre.
Donc, l'initiation aux plantes, en fait, etc., ça vient après?
Non, ça vient avant, parce que je me lance, ça fait 2 décennies que je fais la recherche, c'est-à-dire en tant que scientifique, je suis curieuse de comprendre pourquoi... Quel est le principe actif qui se cache derrière les plantes? Pourquoi cette plante-là a été si puissante et qu'elle a pu faire en sorte que l'on décèle certaines maladies?
Donc, ton élévation, c'est après avoir observé ton évolution, ta démarche scientifique d'abord, je me suis dit, bon, ça fait 2 décennies qu'elle parcourt les villages, on va maintenant l'élever à ce niveau de reine, c'est ça que ça veut dire?
Non, réduit seulement à la recherche scientifique, je ne dirais pas. Parce que, comme disait ma grande, j'ai plus d'une corde. Voilà. Certes, j'ai fait des recherches pour mon peuple, j'ai initié le festival qui a lieu tous les février à la fin du mois où tout le peuple banane se retrouve, tous les chefs se retrouvent pour parler de ces choses-là. Et là, nous en avons commencé aussi depuis. Je suis écrivaine, j'ai fait des publications sur le peuple banane, sur ces choses-là. Voilà, j'ai écrit un livre qui parle justement des rites sacrificiels, ou plutôt pour moi, c'est un plaidoyer actuellement pour une médecine holistique. Je participe pas mal sur le terrain avec des associations. Je travaille main dans la main avec la chefferie traditionnelle. Donc, c'est un tout. Ce n'est pas seulement au niveau des plantes, c'est au niveau aussi de la valorisation, de la sauvegarde.
Du patrimoine.
De ce patrimoine-là.
Bon, maintenant, la deuxième question, c'était de savoir...
Les maladies.
Les maladies. Parce qu'en fait, imaginons que ce soit un homme. Imagine pour une femme qui va accoucher, il ne peut pas toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Toi qui es femme, comment ça se passe pour les hommes vis-à-vis des hommes?
Bon, de ce côté-là, dans la société traditionnelle, ce savoir-là était confié aux femmes, dans la société traditionnelle. Mais aujourd'hui, la société a tellement évolué et qu'on a des infirmiers et des infirmières qui le font. Mais en ce qui est de certaines maladies traditionnelles, je vais filtrer. Comme je le disais, il y a ce que je dis, il y a ce que je ne dis pas. Donc, il y a certains mots, ou alors certains mots à dire. Comme j'ai dit, la conception, c'est le mal à dire. Il y a certains mots qui seront diagnostiqués par des femmes d'un certain âge, c'est-à-dire les femmes ménopausées. Et pour cette société, lorsqu'une femme, elle est déjà ménopausée, parce qu'elle a un autre statut. Elle a un autre statut qui lui donne la place de pouvoir faire certaines consultations. C'est-à-dire, pour certains, elle peut être assimilée à un homme. C'est-à-dire, pas un homme qu'elle va prendre l'homme, la place de l'homme, mais puisque nous parlons de la thérapie, elle peut faire certaines consultations. Parce que le sang... a un symbole très très fort chez ce peuple-là, le sang. Donc, quand on parle sang, on voit déjà la grossesse, on prend les menstrues, on prend tout ça là. Et donc, ça joue un rôle très, très important. Lorsqu'on a enlevé ce côté de la femme qui peut déjà accoucher, qui peut déjà tout, donc, elle est un peu comme l'homme qui ne connaît pas toutes ces choses-là.
Oui, bon, donc, là, tu viens de dire un mot-clé. Une femme ménopausée, effectivement, elle peut être considérée comme un homme, donc elle peut avoir accès facilement. Pour soigner un homme, puis avoir assez à le toucher. C'est ça que pour moi, c'est ça l'élément.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais
non, ne me prête pas les mots. Je n'ai pas dit, elle ne peut pas être considérée comme un homme. C'est-à-dire, je ne le dirai pas. C'est-à-dire, elle a un statut particulier à elle. Elle a un statut particulier à elle. C'est-à-dire, elle peut consulter, elle peut faire certaines choses. C'est-à-dire de deux côtés, que l'homme, lui, ne peut pas faire du côté de la femme, par exemple. Mais elle a un statut particulier parce que, si je dis comme un homme, mais elle n'est plus qu'un homme. À ce moment-là, elle n'est plus qu'un homme avec petite tache, si je dois dire ça. Elle est plus parce qu'elle a ce côté de la femme, et elle a ce côté qu'elle peut venir titiller que l'homme est le seul, l'homme avec petite tache. Donc, elle est plus que cela. Donc, voilà,
donc nous avons une discussion sur le féminisme en Afrique au travers des cultures intellectuelles et des cultures agricoles, quoi. Voilà, donc peut-être que Jérémy, je sais pas, ce serait intéressant qu'on évoque rapidement un peu le livre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Madeleine,
ouais.
C'est dommage.
Ouais.
Un peu le bouquin, qu'est-ce
oui,
que tu aurais envie de...
Voilà. Ben oui, en fait, j'aurais envie qu'elle nous dise un peu, même si la dédicace a eu lieu le 25,
oui.
Pour les auditeurs, qu'elle dise, qu'elle présente brièvement pour ceux qui n'ont pas pu assister à la dédicace.
On lui demande d'être brève, hein.
Ouais,
c'est terrible pour une femme d'être brève.
Surtout elle.
Oui, le bouquin, je dois dire que c'est le troisième.
Ouais.
C'est le troisième après Planterie sacrificielle chez les bananes et l'autre, c'est, il est en allemand. Donc, voilà. Il s'agit du devoir de mémoire. Du devoir de mémoire et de transmission surtout. Qu'est-ce qu'on transmet à la génération à venir? Un devoir de mémoire, chacun a ce devoir de mémoire, chacun. Et parlant de la société traditionnelle, c'est déjà la responsabilité de chacun. Et de se dire, on sait où on va, parfois si on ne sait pas d'où on vient, ça pose problème. Et il faut connaître certaines choses. Tout à l'heure, nous parlons des maladies. Si on ne connaît pas son histoire... On a vite fait de tomber dans une sorte d'acculturation, je peux même dire. C'est-à-dire que parce qu'on ne sait pas, on ignore le pourquoi du comment, mais lorsqu'on connaît ces choses, Jérémy disait là-bas, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est malade, on essaie d'abord avec les potions de grand-mère avant, lorsqu'on a. Mais moi, je dis, lorsque je connais mon histoire. Avec certaines manifestations, je vais dire, ah tiens, il s'agit de ci, il s'agit de ça. Même si je dois d'abord aller consulter la médecine classique moderne, mais il faut d'abord faire ci, ça. Donc, devoir de mémoire, c'est aussi le rappel à la nouvelle, ou alors à la jeune génération et la génération à venir, et que le pays Bénin qui est aujourd'hui, ce qu'il est, il a été obtenu grâce au sacrifice des grands-parents. Ce n'était pas facile. Ils ont dû affronter des ethnies voisines, des guerres intertribales pour pouvoir avoir cet héritage. Et que moi, je dis, c'est un legs. Parce qu'un héritage, on peut faire de cela ce qu'on veut. Mais lorsque c'est un legs, on doit bien le conserver. Et même si on peut changer la forme, mais le fond doit toujours y rester. C'est-à-dire, en quelques mots, c'est un peu... Et devoir de mémoire aussi, c'est une base pour la recherche, parce que c'est un choix personnel, comme je disais. J'ai le choix de publier dans les revues scientifiques, mais moi, j'ai choisi de faire des livres pour pouvoir mettre ces connaissances à la portée de tout un chacun, au lieu de fermer dans une revue scientifique où il n'y a qu'une partie de personnes qui ont droit à ces connaissances-là.
Ok. Bon, ben...
Voilà, donc, ce qui est... ce qui est important dans ce que dit Madeleine, c'est aussi ce souci de transmission.
Ouais.
Parce qu'on se rend bien compte dans nos sociétés modernes actuellement que c'est ce qui manque pour les jeunes souvent, c'est qu'on ne transmet rien.
Ouais.
On leur donne, on leur fait vivre des expériences, on leur achète. Et en fait, voilà, la transmission n'existe pas. Et donc ça c'est très important.
Bon, mais
voilà, donc alors tu peux rappeler le titre de ton livre.
Oui, Devoir de mémoire.
Voilà.
Devoir de mémoire, l'auteur c'est Madeleine Johnson.
Madeleine Johnson.
Ici qui est... à Montpellier, je suis la seule distributrice.
Ah, d'accord.
Parce que l'édition est au Cameroun.
Mm-hmm.
Donc voilà.
Et donc si on veut acheter ce bouquin, on l'achète où?
Si on veut acheter ce bouquin, on me contacte. J'ai le droit de donner mon numéro de téléphone?
Mais bien sûr.
Sûr, 07 69 38 55 46.
Madeleine Johnson. Madeleine Johnson, tu répètes ton numéro, s'il te plaît.
07 69 38 55 46 pour le devoir de mémoire.
Voilà, parce que malheureusement, la signature a eu lieu au Gazette Café samedi passé. Donc voilà, s'il y en a qui veulent, c'est un livre très, très important et très dense. Voilà, donc au revoir Jérémy,
merci.
Au revoir Madeleine et merci.
Merci à vous
chers auditeurs, au revoir. Et nous retrouvons l'ambiance camerounaise que nous a choisie en musique, que nous a choisie Madeleine Johnson. Au revoir.
Au revoir.
Les voix du Seigneur sont insondables. Seul Dieu nous protégera de mes ennemis. Mi bana ni kun, mi la mi bana bembo.